19h30 ici à Paris, l'heure est au débat.
Le débat du jour. Romain Ozoui.
Alors pour certains, la référence est James Bond, pour d'autres, le Bureau des légendes, cette série consacrée au renseignement français. Ce soir, dans le débat du jour, nous évoquons l'espionnage. Il est omniprésent, l'espionnage, dans l'actualité internationale. Ces dernières semaines, les accusations d'espionnage, le plus souvent au profit de la Russie et de la Chine, se sont multipliées dans plusieurs pays. Et depuis lundi, le procès d'un ancien soldat est en cours en Allemagne. Il aurait transmis des informations au service de renseignement russe. Notre question ce soir, est-ce que tous les États s'espionnent? Comment ça marche? Quelles sont les menaces? Mais également, est-ce que l'espionnage est toujours malveillant? Eh bien, soyez les bienvenus dans le débat du jour. Et pour répondre à ces questions, nos trois invités, à mes côtés en studio, Sébastien Yves Laurent, bonsoir.
Bonsoir Romain Ozoui.
Vous êtes professeur de relations internationales à l'Université de Bordeaux, spécialiste du renseignement et auteur du livre « État secret, État clandestin, essai sur la transparence démocratique » aux éditions Gallimard. Nos deux autres invités sont en ligne avec nous. Bonsoir Julien Nocetti.
Bonsoir.
Chercheur associé à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, au laboratoire Géode pour géopolitique de la datasphère de l'Université Paris 8. Vous avez contribué au livre « Le monde des renseignements » aux éditions PUF. Et j'ajoute qu'avec Sébastien Yves Laurent, vous avez dirigé les dossiers renseignements et cyber de la revue « Études françaises de renseignement et de cyber », dossier de cette revue qui sortiront le mois prochain, au mois de juin. Sébastien Dupont, bonsoir.
Bonsoir.
Notre troisième invité, en ligne également, ancien responsable sécurité informatique de l'Hexagone Ballard, directeur du centre Cyber4You. Vous êtes fou d'aller sur Internet, c'est le nom de votre livre aux éditions Flammarion. Merci à vous trois d'avoir accepté l'invitation du débat du jour sur RFI. Alors d'abord, Sébastien Yves Laurent, espionnage, c'est un terme qui est large. Est-ce que le renseignement, c'est de l'espionnage? Est-ce que la surveillance, c'est de l'espionnage? Est-ce qu'on peut définir les différentes formes d'espionnage aujourd'hui qui existent dans le monde?
Alors le renseignement est effectivement synonyme d'espionnage. Le terme peut être utilisé dans les deux sens. Quant aux différentes formes d'espionnage, elles sont extrêmement variées, mais le point commun, c'est un vol. C'est un vol de données, un vol d'informations. Ça peut être le vol d'une feuille de papier ou le vol d'une ligne de code, la pénétration dans un système. C'est défini par le code pénal de tous les États. C'est d'ailleurs sur l'incrimination pénale, c'est sur le fait qu'il y ait un statut à ce vol de données que reposent toutes les qualifications de l'espionnage. Donc l'espionnage, c'est quand même quelque chose qui est très précis, mais c'est aussi, c'est un point très important, quelque chose qui est très ancien et très banal.
Donc en tout cas, ça ne peut pas être légal, l'espionnage.
Ça ne peut absolument pas être légal. Le fait de parler d'espionnage signifie que la personne qui a pratiqué un acte d'espionnage est en rupture avec le code pénal ou le code criminel du pays dans lequel il opère.
C'est foncièrement malveillant?
Ah, c'est tout à fait malveillant. La gravité peut être extrêmement variable. Le vol d'une donnée insignifiante n'est pas d'une grande malveillance, mais le vol de données extrêmement sensibles sur des programmes technologiques est beaucoup plus malveillant. Donc c'est malveillant avec une intensité différente et c'est d'une plus ou moins grande gravité, mais c'est toujours quelque chose qui est réprimé.
Mais par exemple, quand un attentat est déjoué, ça ne peut pas être grâce au service de renseignement, donc grâce à de l'espionnage?
Non, parce que les services de renseignement qui détectent sur leur territoire une menace qui est comme la préparation d'un attentat opèrent en amont de la commission de l'acte. Et alors, ils peuvent identifier dans certains cas des actes de vol de données qui auraient permis de préparer l'attentat. Mais ce sont quand même deux actions, l'espionnage d'une part et la préparation d'un attentat, qui sont de nature différente. Et d'ailleurs, d'un point de vue juridique, c'est encore une fois, tout ceci obéit à des définitions juridiques très précises. L'espionnage d'une part, le terrorisme de l'autre sont des phénomènes qui sont différents. Ils peuvent être conjugués, mais c'est différent.
Julien Nocetti, je précise dans ce débat du jour qu'on parle espionnage d'État. Parce que est-ce que l'espionnage, pour camper le décor, le plus répandu, est l'espionnage industriel? Est-ce qu'on arrive à savoir ce que représente l'espionnage d'État par rapport à l'espionnage industriel, l'espionnage économique, l'espionnage technologique, ce dont on va moins parler dans le débat du jour?
Effectivement, vous avez tout à fait raison de souligner ces deux spectres, parce que quand on débat de problématiques d'espionnage, de renseignement, on a tendance à ramener la chose au haut du spectre avec les politiques plus ou moins hostiles d'État adverse. Mais effectivement, un peu plus bas, en fait, sur ce spectre, vous avez la finalité économique, industrielle, qui peut parfois gagner en intensité en fonction des périodes. Par exemple, actuellement, avec certains pays, dont la Russie, mais pas seulement, qui font l'objet de sanctions internationales, plus ou moins développées. Ce sont des États qui, pour certains d'entre eux, c'est le cas de Moscou, ont développé une agressivité via leur service d'enseignement pour aller subtiliser des brevets, des technologies particulières. Donc là, la finalité industrielle, notamment pour alimenter un complexe militaire-industriel qui peut parfois souffrir de certaines sanctions, est très importante. Donc c'est toujours très délicat, forcément, de quantifier, de bien modéliser la répartition entre cette finalité stratégique et économique, mais parfois l'économique rejoint le stratégique, ce qu'on voit très très bien actuellement dans le cas de la guerre en Ukraine en particulier.
Ouais, avec la Russie, avec la Chine, qui sont quand même peut-être les deux pays les plus soupçonnés dans lesquels il y a le plus d'affaires d'espionnage. Est-ce qu'on peut dire quelles sont les formes d'espionnage d'État aujourd'hui? Il y a plusieurs formes d'espionnage d'État.
Alors, effectivement, vous avez diverses formes en fonction, là aussi, des intentions. C'est vrai qu'actuellement, on a peut-être tendance à mettre l'accent sur la dimension numérique, des intrusions commises, là aussi, en fonction de différents objectifs par les États. Et c'est vrai que toute cette notion de d'hybridité des conflits, de conflictualité cyber, revient en fait en force aujourd'hui, depuis quelques années, à la faveur aussi de l'appropriation par certains États, notamment la Russie et la Chine, mais pas seulement, de moyens numériques. Et ça, c'est quelque chose qui leur confère des leviers parfois très importants, parce que ils peuvent opérer de manière dans le secret, mais aussi parfois de manière clandestine, ce qui, là, peut modifier les rapports de force, peut aussi servir à envoyer des messages, des signaux aux adversaires. Donc c'est là, en fait, où cette dimension numérique de l'espionnage aujourd'hui prend une part, à mon sens, très importante dans cette conflictualité qui est très mouvante et très complexe à l'heure actuelle.
Il n'est pas que numérique aujourd'hui, l'espionnage, en 2024 ?
Alors, il n'est pas que numérique, bien sûr. Il est aussi de nature humaine, tout bêtement humaine, je dirais, j'attendais de dire, ce qui renvoie...
Est-ce qu'on peut donner des exemples ?
Bien sûr, ça consistera à aller faire travailler des sources humaines qui iront mener diverses formes d'intrusion pour aller s'utiliser un renseignement particulier sur le domaine politique, économique, stratégique, et ce qui là renvoie à des pratiques extrêmement classiques et anciennes et très bien documentées par les littératures à la fois historiques et académiques.
Comme ce soldat allemand que j'évoquais, qui est en procès depuis lundi et qui aurait transmis des informations au service de renseignement russe. Sébastien Yves Laurent disait que l'espionnage existe depuis très longtemps. Comment a-t-il évolué ? Est-ce qu'aujourd'hui il est plus important ? Évidemment, les méthodes ne sont plus les mêmes. Je reste avec vous, Julien Nocetti. Après, je donne la parole à Sébastien Dupont.
Tout à fait, tout à fait. Alors, les méthodes restent plus ou moins identiques. Après, c'est vrai que ce contexte de tout numérique où le degré de transparence, entre guillemets, sur les actions des uns des autres peut être assez important, fait que on peut aussi, via la contribution d'acteurs privés, documenter, exposer sur la place publique, en fait, les pratiques des uns des autres. Et c'est pour ça que notamment à l'heure actuelle, les pratiques des services de renseignement russes sont à la fois scrutées, bien documentées, et puis en fait publiées. Donc c'est pour ça qu'aussi vous avez autant d'affaires qui agitent à la fois nos partenaires européens ou américains dans ce domaine, parce que effectivement les tactiques russes sont bien documentées, et des acteurs privés tels que Google, Microsoft, etc. sont par leur degré de connaissance technique sur certains modes opératoires, peuvent aussi contribuer à rendre public et à diffuser à une échelle impressionnante, tout à fait globale, des données sur ces modes opératoires de renseignement russe ou chinois, par exemple. Ce qui a été fait il y a quelques semaines, par exemple, avec les révélations d'une filiale de Google, qui s'appelle Mandiant, sur l'activité foisonnante d'un groupe de hackers affiliés au renseignement militaire russe, impliqués dans les affaires de sabotage, mais aussi d'espionnage au long cours dans les infrastructures de pays adverses, donc en l'occurrence pays européens et États-Unis.
Sébastien Dupont, vous n'avez pas encore entendu, est-ce que l'objectif de l'espionnage étatique aujourd'hui, c'est uniquement l'ingérence? Et est-ce en cela, pourquoi cette raison que finalement Russie et Chine sont les deux pays les plus montrés du doigt dans ces affaires-là?
Les pays sont aujourd'hui dans une guerre économique, politique, et ils ont envie de tirer des avantages pour leurs citoyens. Donc, de leur point de vue, c'est légitime. La France aussi, hein, faut pas croire qu'il y a que les autres qui espionnent. Les Français ont aussi quelques outils, en tout cas les Européens. Mmh. Et donc, dans cette guerre, pour tirer des avantages, pour tirer la couverture à soi, tout est bon pour tirer des avantages, que ce soit des avantages économiques, pour vendre davantage d'avions à une époque. Ça peut être des pays qui vont espionner. Là, dernièrement, on a vu des téléphones de ministres. On n'en a pas trop entendu parler, mais ça a quand même été divulgué, qui est quand même, de mon point de vue, littéralement scandaleux. Et je ne comprends pas qu'on ne puisse pas attaquer les pays qui ont de telles pratiques et qu'on ne mette pas en place des moyens, puisqu'on apprend encore récemment que les ministres continuent à utiliser leurs téléphones non sécurisés.
Malgré le scandale Pegasus, notamment, il y a quelques années. C'est un logiciel espion qui rentre dans les smartphones.
Voilà. Et si vous voulez faire prendre une décision, vous avez une décision, alors c'est pas forcément... Ce sont des micro-décisions et qui passent sous les radars. C'est ça qui m'inquiète le plus. C'est que vous pouvez mener... vous êtes sur un contrat, vous êtes sur une décision politique, vous êtes en train de mener un conflit, vous avez besoin d'adoucir une prise de décision, vous voulez que la justice se mette de votre côté. Vous espionnez des individus, vous identifiez dans leur vie privée sur quoi vous pouvez faire levier pour les contraindre et vous menez un plan d'action. Et tout ça, ça passe sous les radars.
Mais pourquoi ?
On ne voit rien.
Pourquoi ? Pourquoi il y a cette forme ? C'est quoi ? C'est du laxisme ?
Alors,
pourquoi cette tolérance à l'espionnage ? Parce que ça dessert les États.
En fait, on n'arrive pas à quantifier la perte. C'est-à-dire que nous, Français, on a un côté très, très naïf sur ces sujets. On ne met pas, à mon avis, forcément assez de moyens pour lutter. On manque de sensibilisation. Et tout simplement, je pense qu'on n'identifie pas les pertes de chance liées à tout ça. Et finalement, on laisse faire. C'est normal. Alors que derrière, ça peut être beaucoup d'emplois perdus. Donc il y a des impacts concrets sur le citoyen. C'est aussi quand l'État se fait attaquer, moi j'aime bien cette phrase, c'est l'ensemble des citoyens qui devraient se sentir concernés. Et derrière, ça peut être des ingérences, ça peut être des foules qui sont manipulées. On le voit avec les réseaux sociaux. Encore hier ou avant-hier, j'ai une petite animation sympathique. Et derrière, je vois que c'est en provenance d'une URL qui vient de Russie. Ouais. Je me dis, mais en quoi la Russie vient me diffuser une petite animation sympathique, très franchouillarde, parce qu'ils veulent récupérer des infos derrière, etc. Donc il y a une guerre d'influence qui est cachée, et c'est bien qu'on puisse en parler un petit peu aujourd'hui.
Et on évoquera notamment le rôle des réseaux sociaux, et on va peut-être citer TikTok avec la Chine, parce qu'évidemment l'espionnage se fait notamment via les réseaux sociaux aujourd'hui, et d'abord via le numérique, on a dit, même si encore une fois la présence d'espions, et on le voit dans l'actualité actuellement, en Allemagne notamment, reste importante. Sébastien Yves Laurent, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que dit Sébastien Dupont ? Il n'y a pas suffisamment de garde-fous face à l'espionnage, il citait l'exemple de la France, mais par exemple, quand je parlais de Pegasus, donc ce logiciel espion qui permet d'écouter les smartphones, ce sont des centaines de personnalités politiques qui ont été touchées à travers le monde dans ce scandale.
Alors, la question des garde-fous pose la question d'une éventuelle solution à l'échelle internationale. Ce qui est très important, pour revenir sur ce que Sébastien Dupont disait, c'est qu'on constate que les États se sont entendus entre eux pour interdire un certain nombre de choses. Par exemple, les crimes de guerre sont des incriminations qui ont été définies au 19e siècle. Et le droit international a défini les crimes de guerre. Puis il a défini les crimes de génocide après la Deuxième Guerre mondiale. Donc ça veut dire que les États sont très conscients qu'ils peuvent s'interdire des moyens mutuels. Ça veut dire que quand ils les mettent en œuvre, ces moyens, des crimes de guerre comme actuellement la Russie en Ukraine ou les crimes de génocide comme malheureusement en Afrique ou ailleurs, eh bien à ce moment-là, il y a des incriminations, il y a des juridictions qui peuvent poursuivre les gens. Ce qui est très frappant, c'est que les États ont collectivement refusé de s'interdire la pratique de l'espionnage. Autrement dit, les États ont de façon négative, en fait, se sont autorisés à s'espionner mutuellement. Ça permet de revenir sur une chose que disait Sébastien Dupont, ça veut dire que si les États refusent de s'interdire au regard par le droit international les pratiques d'espionnage, puisqu'elles sont toutes réprimées, en droit national. Dans tous les pays, quand vous espionnez, vous tombez sous le coup de du code pénal du pays où vous opérez. En revanche, en matière de droit international, on ne peut pas poursuivre des individus qui commettent de l'espionnage. Mais ça veut dire quoi?
Parce que ça les sert.
Eh bien, exactement. Ça veut dire que chaque État est espionné et espionne.
Alors, on est au cœur de notre débat, là.
On est au cœur de notre débat. Effectivement, c'est pour ça que je l'évoque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les États qui ne lancent pas le sujet dans les enceintes internationales d'une éventuelle interdiction de l'espionnage sont persuadés qu'ils vont plus retirer des gains de leur activité d'espionnage qu'endosser des pertes de l'espionnage dont ils sont l'objet. Et là, je pense qu'il y a une mauvaise évaluation, mais c'est très difficile parce que finalement, évaluer l'espionnage dont vous êtes l'objet, c'est éminemment subjectif. Et finalement, vous évoquez le cas de cet officier allemand qui a été arrêté. On peut supposer qu'il y a d'autres agents russes qui opèrent sur le territoire allemand et qui sont inconnus. Autrement dit...
Il y a eu plusieurs arrestations, d'ailleurs.
Alors, il y a eu plusieurs arrestations, mais il y en a probablement d'autres contacts russes qui opèrent. Autrement dit, les États n'ont jamais une claire conscience de l'espionnage dont ils sont l'objet. Ils ont une claire conscience de l'espionnage qu'ils pratiquent. Ils savent combien ils ont d'agents à l'étranger. Mais en revanche, ils ne savent pas combien ils ont d'agents qui les espionnent. Et donc, ce qui est très intéressant du point de vue des relations internationales, qui est mon sujet de réflexion, c'est qu'il y a une forme d'aveuglement des États qui sont toujours persuadés qu'ils espionnent plus qu'ils ne sont espionnés, ou en tout cas qu'ils retirent plus d'avantages de l'efficacité de leur action nationale d'espionnage que de celle que leurs compétiteurs ou leurs adversaires entreprennent sur leur territoire.
Mais quel résultat ils obtiennent justement de cet espionnage?
En fait, l'espionnage, je parlais tout à l'heure d'un vol d'information, c'est en fait ce qu'on peut appeler un contenu informationnel. C'est-à-dire qu'on peut voler une feuille de papier sur laquelle il y a une ligne de code très précieuse, on peut voler, une clé de chiffrement, on peut voler une information qui est ouverte. L'espionnage, fondamentalement, c'est une atteinte informationnelle.
Mais ça fait partie de la diplomatie, on peut dire, aujourd'hui, des pays, l'espionnage?
Alors ça, c'est un point très important. C'est que les États se sont toujours espionnés. Depuis qu'ils se sont structurés il y a plusieurs siècles, les États modernes ont toujours pratiqué l'espionnage. Et quand on regarde sur les premières pratiques d'espionnage, qui étaient les premiers espions? C'était les diplomates. Et dans l'Europe aristocratique, tous les ambassadeurs étaient des très grands aristocrates et ils violaient les règles morales et religieuses de leur temps pour espionner dans les cours étrangères. Et finalement, ça n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est que ceux qui opèrent des actions d'espionnage ne sont plus des diplomates de métier. Ce sont souvent des gens qui ont des couvertures diplomatiques. Et je voudrais juste rappeler à cet égard, puisqu'on parle de la Russie, que depuis 2016-2017, il y a eu dans les pays occidentaux plusieurs centaines d'expulsions de citoyens russes ayant une couverture diplomatique pour des raisons d'espionnage. Donc c'est un chiffre quand même absolument considérable. Jamais, même sur la totalité de la guerre froide, il n'y avait eu autant d'expulsions de diplomates soviétiques dans l'ensemble du monde qu'il n'y en a eu en l'espace d'une décennie uniquement en Occident. Donc ça vous donne non pas une idée de la quantité de l'espionnage, mais en tout cas de la bonne efficacité des services de renseignement occidentaux qui ont, à ce jour, contribué à identifier environ un peu plus de 700, je m'appuie sur des informations ouvertes relayées par la presse, environ plus de 700 agents russes qui opéraient sous couverture diplomatique.
Le débat du jour ce soir, est-ce que tous les États s'espionnent? La question qu'on pose, oui, vient de nous répondre dans un grand plaidoyer très argumenté Sébastien Yves Laurent, l'un de nos trois invités, professeur de relations internationales à l'université de Bordeaux, spécialiste du renseignement. Nos deux autres invités étant Julien Nocetti, chercheur associé à l'IFRI, au laboratoire Géode pour géopolitique de la datasphère de l'université Paris 8, et Sébastien Dupont, ancien responsable sécurité informatique de l'Hexagone Ballard et directeur du centre Cyber for You. Julien Nocetti, je voudrais vous faire réagir à ce qu'a dit Sébastien Yves Laurent. C'est très intéressant parce que on a toujours l'impression que les activités des espions sont très secret défense, mais on a l'impression qu'il n'y a aucun secret sur le fait que, je vais reprendre cette phrase de Sébastien Yves Laurent, les États se sont autorisés à s'espionner mutuellement et donc il n'y a aucun garde-fou pour lutter contre l'espionnage parce que ça les sert davantage que ça ne les dessert.
ça les sert à tout à fait, bien sûr. Donc il faut quand on analyse ces problématiques, garder en tête en fait le profond pragmatisme des acteurs internationaux dans ce domaine qui, pour certains, n'ont aucun complexe, effectivement, à aller mener des opérations de renseignement au long cours. J'en reviens encore une fois à cette temporalité parce que c'est extrêmement important aujourd'hui, y compris dans le domaine numérique, où les effets parfois peuvent se faire sentir sur plusieurs années. Mais ce qui change peut-être la donne quand même, et c'est là où j'en viens à ce que vous évoquiez il y a quelques instants, c'est en fait aux réseaux sociaux qui ont effectivement eu le paradoxe suivant, qui est d'avoir un petit peu aplani, si vous voulez, la scène, en montrant que des comptes sur Facebook, Twitter ou TikTok, on en parlait tout à l'heure, peuvent avoir un intérêt pour des services d'enseignement qui iront s'intéresser à la fois au contexte social et politique d'un pays donné, d'une région particulière, ou qui s'y intéresseront pour aller éventuellement recruter des sources et des agents à plus long terme. Donc c'est un élément important parce qu'aujourd'hui, ça fait partie de leur paysage qui est incontournable, quoi qu'on en pense, et qui, en retour, suscite évidemment des réactions, je dirais, très, très crispées de la part de notamment de certains de nos adversaires, pardon, comme la Russie ou la Chine, encore une fois, qui ont tous pris des mesures contre ces plateformes américaines.
Ouais. C'est surtout l'espionnage via les réseaux sociaux, pardon, je rebondis, mais l'espionnage via les réseaux sociaux, c'est surtout pour faire de la propagande. Je pense à TikTok avec la Chine, c'est d'abord pour diffuser de fausses informations.
Alors, le cas TikTok est très particulier parce qu'effectivement, on en parle beaucoup, notamment actuellement aux États-Unis, où le Congrès essaie de mettre des bâtons dans les roues, effectivement, de cette plateforme chinoise, qui a un algorithme extrêmement puissant. Et c'est là où le législateur américain est aussi très intéressé pour essayer de contrer cette montée en puissance qui est extrêmement rapide de la part de TikTok et de sa maison mère ByteDance. Mais le potentiel, effectivement, de TikTok pour aller cibler tout particulièrement la jeunesse est extrêmement intéressant quand on se place du point de vue de services d'enseignement, pas forcément bienveillant vis-à-vis des États-Unis ou de l'Occident en général, mais ça concerne aussi en retour d'autres services, hein, comme Twitter, encore une fois, ou Instagram, qui peuvent être utilisés à des fins de manœuvre, et puis encore une fois de recueil de différentes sources, de différents éléments de contexte qui, encore une fois, seront parfois très utiles pour des services qui, dans la mesure du possible, iront coller de très près au contexte sociopolitique et économique des pays qu'ils visent. Et c'est par hasard si les différents récits que Pékin ou Moscou, par exemple, vont promouvoir, diffuser vis-à-vis de la France, de l'Allemagne ou du Royaume-Uni, iront vraiment, encore une fois, coller de très près au moment politique en fait de ces pays en ciblant les vulnérabilités politiques et sociales de ces États. Et c'est là où les réseaux sociaux permettent vraiment de sentir la tendance, sachant que tout est à cœur ouvert. Je sais pas dire.
Sébastien Dupont, vous qui avez été responsable sécurité informatique de l'Hexagone Ballard, encore une fois, on comprend ce soir que l'espionnage d'État est légion, mais l'espionnage d'État chinois ou russe n'est pas l'espionnage d'État français. Quelles sont les différences?
Alors, j'ai pas travaillé dans les services de renseignement, donc j'ai pas benchmarké ni comparé les différentes pratiques. Mais bon, si on fait preuve un peu d'imagination tous ensemble, je pense qu'à un moment c'est une question d'éthique, c'est une question de moyens. Moi, j'aime bien la définition de la CNIL, Commission nationale informatique et liberté, qui autorise la surveillance. Elle autorise la surveillance et elle met une notion de légitimité. C'est-à-dire, et d'ailleurs, je pense que les experts du droit pourraient compléter, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit légitime. Si c'est pour légitimer pour une raison de police, de justice, de terrorisme, ça semble tout à fait dans les constitutions d'assurer la sécurité des citoyens. Par contre, dès que ça dépasse ce cadre, les questions se posent et c'est là qu'il y a des États qui l'utilisent d'un point de vue économique avec des moyens disproportionnés, des moyens d'influence. Voilà, donc c'est cette question morale
de l'État,
par exemple la Chine, et il faut que les citoyens, on se saisisse de ces questions.
Comment les citoyens peuvent se saisir de ces questions d'espionnage? Quelle marge de manœuvre?
Moi, je pense qu'il faut demander à avoir la visibilité. Moi, je pousse pour qu'on ait des chiffres en cybersécurité, qu'on ait des chiffres…
Une transparence ?
Une transparence, quelque chose de tout simple. Moi, alors, ça fait un peu vieux jeu, mais des rapports tout simples, des inventaires d'actes de… À chaque fois qu'on prend les gens les mains dans le pot de miel, il faut afficher. Donc déjà, ça, c'est il faut le faire. Et la France le fait, hein, parce qu'on a quand même… Là, tous, on se base sur des sources ouvertes. Donc, il y a des informations qui sont publiques. Mais il nous faut du temps pour aller récupérer ces informations. Il n'y a pas de rapport facile d'accès qui nous permettrait de vulgariser encore plus facilement les gens, les responsables d'entreprise et mettre de vraies politiques en face.
Sébastien et Yves Laurent, comme les actes d'espionnage, finalement, sont légion, sont acceptés, je dirais, pourquoi effectivement pas les rendre transparents, les rendre publics ? Et est-ce que ça peut permettre aussi d'éviter, de fixer une limite, je dirais, à cet espionnage d'État ?
Alors, sur la transparence, ou plutôt sur la publicité, il y a eu de très grandes évolutions. Depuis la fin de la guerre froide, lorsqu'il y a des cas d'espionnage avérés et traités par la justice, les informations, la plupart du temps, sont rendues publiques. Et ça contribue, du point de vue de l'État qui les rend publiques, à sensibiliser l'opinion, pour faire écho à ce que disait Sébastien Dupont, à sensibiliser l'opinion à finalement la grande diffusion, la simplicité et surtout le caractère quotidien d'un certain nombre de ces menaces. Donc moi, je crois qu'aujourd'hui, dans les États démocratiques, et je pense que le durcissement des relations internationales, notamment dans la relation de l'Occident avec la Russie et l'Occident avec la Chine d'autre part, est utilisé comme un levier par les États démocratiques pour montrer qu'il y a des vols d'informations, qu'il y a de l'espionnage, et pour le critiquer très fermement. Et on le voit aussi en matière cyber. Faut se rappeler que les fameuses attaques cyber sont en très grande majorité des vols de données. Donc la plupart des grandes attaques cyber, en volume, hein, la très grande masse des attaques cyber, c'est en fait de l'espionnage. Hein. Julien Ossetti évoquait tout à l'heure l'activité du Parlement américain. Les différents rapports depuis 5-6 ans attestent qu'une grande partie des attaques cyber dont les États-Unis sont l'objet de la part de la Chine et de la Russie sont en fait de l'espionnage tout à fait classique, des vols de données, secrets technologiques ou secrets à portée économique. Donc là-dessus, il y a aussi un grand travail de visibilisation de ce qui est secret et qui s'appelle l'espionnage.
Mais justement, il nous reste quelques secondes, mais comment fixer la limite, encore une fois, parce que pour éviter de basculer dans une cyberguerre, aucun État n'a intérêt à cela à partir du moment où tous sont d'accord sur le fait qu'il y a cet espionnage.
Alors ça, c'est un point crucial qui est un point assez classique quand on étudie les relations internationales, c'est que les États ne sont pas toujours des acteurs extrêmement rationnels. Les États, qu'ils soient démocratiques ou non démocratiques, ne savent pas toujours faire le départ, la différence entre les menaces dont ils sont l'objet et les attaques qu'ils peuvent faire sur d'autres pays. Et donc les États sont des acteurs souvent qui ont une connaissance, même des États puissants, une connaissance assez limitée de leur environnement, qui font des anticipations, qui ne sont pas toujours de très bonne qualité, que ce soit des très grandes puissances ou des puissances moyennes. Et ça, il faut bien prendre en compte, c'est à mon avis très important quand on s'intéresse aux relations internationales, c'est que les États commettent souvent, dans leur appréhension de leur environnement informationnel, un certain nombre d'erreurs. Et là-dessus, il n'y a pas de hiérarchie entre des États qui en feraient moins que d'autres.
Et donc, jusqu'où ira l'espionnage ? Ça, c'est une question qui est en suspens. En tout cas, est-ce que tous les États s'espionnent ? Pour répondre, et si vous nous rejoignez dans le débat du jour qui touche à présent à sa fin, je vais reprendre votre phrase, Sébastien Yves Laurent. Les États se sont autorisés à s'espionner mutuellement. Merci beaucoup, professeur de relations internationales à l'Université de Bordeaux. Merci à Julien Ossetti, chercheur associé à l'IFRI, au laboratoire Géode pour géopolitique de la datasphère de l'université Paris 8, et merci à Sébastien Dupont, directeur du centre Cyber4You. Merci à Florence Ponce qui était à la préparation de ce débat. Merci à Hélène Avril qui était à la réalisation. Allez, 19h, bientôt 59 minutes ici à Paris. Dans une minute, le journal de 20h, Marion Cazeneuve, le décryptage, ensuite consacré ce soir au dopage dans le sport. Juste après, ce sera Afrique Soir, la première édition. Zéphirin Quadio à mes côtés. Bonsoir Zéphirin.
Bonsoir Romain, bonsoir à toutes et à
tous.
Au programme ce soir, de possibles discussions entre les présidents de Guinée-Bissau et de Centrafrique pour une éventuelle extradition, et de François Bozizé, l'ancien président centrafricain, sous le coup d'un mandat d'arrêt émis par la Cour pénale spéciale, vit depuis 14 mois en exil en Guinée-Bissau. Et puis notre dossier consacré ce soir à la flambée épidémique de diphtérie en Afrique, maladie infantile oubliée qui a ressurgi en 2022 sur le continent, notamment au Nigeria.
Eh bien, merci Zéphirin. À dans 30 minutes sur Radio France Internationale.